On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter. Alors on est au Café du Siècle à Ganges, on est avec Sabine. Sabine, tu veux nous parler d'une recette particulière qui te tient à cœur. C'est quoi cette recette ?
Alors c'est une recette en vérité qui nous vient de la région dont on est originaire en Espagne. Ça s'appelle du cocido. Et en fait chaque région d'Espagne a son cocido. Et c'est une espèce de ragoût finalement, voilà, mais à l'espagnol. Donc le cocido aragonais, c'est un plat à base de viande, un plat qui se mange en hiver, donc viande mélangée, haricots blancs, secs ou frais. Enfin, frais c'est mieux, mais en fait les cocos frais on les a plutôt en fin d'été, du coup il faut les congeler. Et en fait c'est un plat qui se mange avec... Avec des petits poivrons préparés au vinaigre et des oignons effilés aussi dans du vinaigre, mais les oignons frais, du coup, on les coupe fraîchement et on les fait tremper dans du vinaigre avec du sel et du poivre.
Pour qu'on se représente bien la recette, tu peux nous décrire un peu au goût ce que ça donne une fois que le plat est prêt, et après on reviendra sur les étapes, bien sûr, de cette recette.
Alors, pour vous donner le goût, c'est le goût de l'Espagne, c'est le goût, c'est comme une espèce de bouillon chaud, bien épais, avec le suc des haricots blancs et de l'ail mélangé. Et voilà, c'est un plat qui se mange... déjà, il est super joli, c'est super beau parce que c'est de la couleur. C'est de la couleur, c'est jaune. Pour nous, la cuisine, c'est jaune, voilà. Et voilà, c'est un plat qui réchauffe. Il est varié parce qu'il y a des féculents. C'est surtout un plat à base de féculents et de viande. Comme je pense tous les plats d'hiver des pays pas très, très, très riches. J'ai envie de dire. Et alors, c'est un plat qui a plusieurs variantes. C'est-à-dire que c'est féculent, féculent et féculent. C'est-à-dire légumineuse plus féculent. On ajoute soit aux haricots, on rajoute des pommes de terre, soit des spaghettis, soit du riz. Donc, c'est vraiment c'est une soupe soit de spaghettis, soit de haricots, soit de riz.
Alors, ce plat, comment on le prépare ? C'est quoi les étapes ?
Alors, on commence par la viande. On commence par la viande, donc on fait revenir un petit peu la viande avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre, toujours. On rajoute de l'eau jusqu'en haut de la casserole. On fait bouillir, on fait cuire lentement à feu doux jusqu'à ce que la viande se défasse un petit peu. On rajoute les haricots. Ensuite, il ne faut pas oublier le safran. Alors safran ou colorant, ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent le safran et quand on est moins riche, on met du colorant.
C'est juste pour la couleur, pour le jaune, pour obtenir un jaune.
C'est vraiment le jaune. Ouais, je pense que parce que le safran c'est un petit goût particulier, mais des fois dans les gros bouillons comme ça, c'est peut-être un petit peu dommage de mettre du safran. Ouais. Donc nous, souvent, on a l'habitude d'y mettre du colorant.
Il y a la version luxe. On sait qu'il y a la version luxe au safran qui va rajouter effectivement quand même un parfum. Exactement. Mais sinon, il y a la version avec colorant.
Exactement. Donc la base, c'est vraiment faire cuire la viande et la faire mijoter pour qu'elle se détache, qu'elle donne des sucs. Alors, j'ai pas parlé de la viande, mais c'est important. Parce que les choix des morceaux de viande, ça, c'est vraiment le petit clou du plat. Donc, pour ce cocido, il faut absolument de la ventrèche fraîche de porc. Il faut du jarret de veau et de l'os à moelle. Voilà, essentiellement. Après, on peut, une fois que ce bouillon de viande est prêt, on peut toujours rajouter ce qu'on appelle la morcilla, qui sont des petits boudins espagnols qui sont faits avec soit de l'anis, soit de la noisette, soit des pignons. Ça dépend des régions, mais qui ont un goût très très particulier. Donc ça, on peut le rajouter, mais plutôt à la fin, parce qu'après ça se détache et ça, bon, c'est aussi pas mal, mais il faut être habitué, quoi. Donc, eh bien, tout simplement, quand la viande est cuite et les haricots rajoutés, on rajoute spaghetti ou riz ou pommes de terre. Il faut choisir un des trois. Et après, et l'idée du plat, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de bouillon. Ça se mange à la cuillère, en fait. Et à côté de l'assiette, sur la table, on prépare un plat avec de l'oignon fraîchement coupé, qui baigne dans le vinaigre, avec du sel et du poivre. Voilà. Et ça se mange en même temps.
Une recette, ça en dit souvent beaucoup sur la personne qui la prépare. Là, on entend que l'Espagne est omniprésente dans cette recette. Tu peux nous dire pourquoi l'Espagne est si présente ?
Bah, tout simplement parce que je pense qu'on est d'une partie d'origine espagnole et que notre cuisine s'est tournée vers l'Espagne. Une cuisine, c'est aussi des souvenirs. C'est aussi la cuisine que préparait notre tante, qui avait appris à préparer notre maman et qui nous faisait quand on était enfant. Et donc, je pense que c'est les recettes, tournées vers l'Espagne, là, forcément, parce qu'on a une partie de notre famille qui est espagnole. Parce que quand on va en Espagne, on aime manger des cocidos, mais aussi chez nous, c'est un plat favori dès qu'arrive l'hiver. J'ai envie de dire, autant chez les Maghrébins ils aiment manger le couscous, c'est plutôt le cocido ou la paella. Voilà, c'est le plat du dimanche, souvent, quoi.
Tu te souviens peut-être de la première fois où tu as pu manger cette recette?
Je me rappellerai jamais de la première fois, mais parce qu'on en a mangé tellement. Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est un plat tellement favori que dès qu'on entend le mot cocido, même tous nos enfants maintenant, ils sont là, ouf, un cocido. Voilà, c'est non, j'ai pas un souvenir précis, mais en revanche, effectivement, ça a tendance un peu à me rappeler mon papa parce qu'il adorait ça, simplement.
A llorar cuando no estaba y el rincón de tu recuerdo que ocupa toda mi casa. Hay mil maneras de soñar y en ninguna te soñaba. Qué difícil encontrarte cuando la luz se... Nada en lágrimas saladas. No llora mi pez, y porque no le falta el agua. Desde que tú no estás, nada en conversar conmigo mismo y a contarme los secretos y a sentirme como un niño y a mentir cuando hacía falta y a vestirme los domingos y a cogerte de la mano y a besarte sin permiso. Tantas cosas me enseñé que de nada me ha servido. Y no llora mi pez porque no le falta el agua desde que tú no estás. Y nada en lágrimas saladas. Que no llora mi pez porque no le falta el agua.
Alors, travers cette recette. Donc on part d'Espagne, on arrive ici à Ganges, dans les Cévennes. C'est quoi le parcours en fait qui amène cette recette de l'Espagne jusqu'à ici? Tu peux nous le raconter un petit peu, ce parcours de famille?
Alors tout simplement, je pense que finalement, la cuisine en général nous raccroche toujours à quelque chose. Et effectivement, peut-être que pour nous, la cuisine, eh ben, elle nous donne un petit goût de l'Espagne. Et tout à fait naturellement, quand on a des habitudes culinaires comme ça, c'est peut-être pas pour rien. J'ai envie de dire, c'est un peu comme une nostalgie de goût, de saveur, de rappel, même pas de nos souvenirs presque à nous, mais des souvenirs de nos ancêtres finalement, et nos ancêtres proches, parce que je pense souvent à mon papa. Qu'on n'a plus. Et finalement, peut-être que la cuisine, quand on mange tous ces plats, ben, quelque part, on lui fait un peu hommage un peu tous les jours, quoi. Et peut-être que c'est ça qu'on recherche, mais en tout cas, c'est tellement plus profond, c'est qu'on aime tellement aussi que j'ai envie de dire, c'est notre couleur de l'Espagne ici. Dans le bar.
Donc c'est ton grand-père qui est venu d'Espagne?
Oui, tout à fait. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui sont venus d'Espagne en 22. Parce qu'en fait, mon grand-père travaillait dans les mines du Bas-Aragon, précisément dans la ville de Mequinensa, qui est maintenant un port très très connu des pêcheurs. Il y a des pêcheurs du monde entier qui se rejoignent dans ce port, parce que je crois qu'il y a c'est un port, un petit port dans un petit village tout au bord de l'Ebre. Et dans le Bas-Aragon. Et en fait, ce petit village est entouré de mines. Alors, si tu me demandes mines de quoi, je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, je sais qu'il travaillait dans les mines. Et lorsqu'elles ont fermé, eh bien, il est parti en 22. 22, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'eux sont arrivés ici en 22.
Un peu par hasard, ils sont arrivés à Ganges. Ils sont arrivés dans les Cévennes.
Peut-être pas par hasard, parce qu'il y avait, mais je ne sais pas si elles existaient déjà, mais je pense que oui, les mines des Malines. Mais mon grand-père n'a pas travaillé dans les mines ici. Ici, finalement, il a travaillé plutôt dans la ferraille, tout d'abord. Ma grand-mère vendait des draps, et puis lui, il revendait la ferraille. Ils ont participé à l'arrivée de toute la famille, par exemple de ma grand-mère, qui, eux, étaient restés en Espagne et qui sont venus pour fuir la guerre sous Franco. Mais mes grands-parents étaient installés ici depuis 22, et d'abord à Bédarieux, et ensuite ils sont venus à Ganges tout de suite. Et depuis, on est là.
Et donc tes parents se rencontrent, ils restent dans les Cévennes, ils travaillent dans les Cévennes, et un jour ils décident d'acheter le café du siècle.
Ouais, c'est ça. Ma maman est originaire de Molières-Cavaillac et mon papa était ici à Ganges. Avant d'être entrepreneur, il a été maçon dans une grande entreprise montpelliéraine. Et ensuite, il a créé sa propre entreprise. Ils ont eu l'opportunité d'acheter le café alors que maman travaillait à l'usine. Et oui, une belle opportunité qu'il n'aurait pas... Il n'aurait pas imaginé, donc effectivement, ils se sont lancés dans le café. Mais papa continuait à travailler en maçonnerie. Et c'était plutôt maman qui s'occupait du café, avec nous, tous, au milieu.
C'est vraiment une histoire de famille, ce café. Tu y as passé ton enfance?
Toute mon enfance, oui. Finalement, on est arrivé. Moi, j'avais 5 ans, donc on peut dire quasiment toute notre enfance. Ouais. Et tous les quatre, on a grandi dans le bar, et on est quatre enfants donc. Et on a grandi dans le bar, et ensuite on est un peu parti à la ville pour faire nos études, mais on est revenus. On est tous là. On est tous revenus en fait. Bah oui, c'est des souvenirs quelquefois un petit peu difficiles, parce qu'on sait bien que le café il y a 30 ans, c'est pas le café aujourd'hui. Mais en même temps, on a eu la chance de vivre dans un café. Hein. C'est pas tous les enfants qui vivent dans des cafés. Donc, le café, pour nous, ça voulait dire les gens, la curiosité, le jeu, parce qu'il y avait plein de jeux tout le temps. En plus, on était fournis, parce que le bar est très, très grand. Et du coup, on avait beaucoup de jeux, d'arcade, on avait même dit un ping-pong dans la salle du fond. C'était carrément la classe. on était hyper joueurs. Il y avait plein de joueurs de cartes. Il y avait, enfin voilà, c'était hyper vivant et ça suscitait toujours la curiosité de parler des nouveaux gens. Enfin, on a grandi pas dans un cocon familial, mais dans un cocon bar, quoi.
Qui est plein d'histoires. Alors, je ne sais pas de quand il date précisément ce café, avant même que tes parents le reprennent. J'ai entendu qu'il y avait eu des jeux qui s'étaient joués, même des enjeux parfois financiers dans ces jeux, que peut-être même des maisons s'étaient jouées tout entières.
Ça, c'est maman qui l'a raconté. Moi, j'étais trop petite pour me souvenir de ces choses-là, mais elle sait absolument tout.
C'est l'histoire secrète du café du siècle.
Un petit peu, mais elle a traversé. L'histoire du café, en fait, c'est que... Finalement, elle a traversé beaucoup d'époques. On en a l'impression, les générations dans un bar, ça va très vite aussi. J'ai envie de dire, quand on est à l'école, chaque 4 ans, c'est une nouvelle génération, presque. Et dans le bar, c'est pareil. On voit passer les années. À la fin de l'année, on s'est dit, ah, ben, l'an dernier, à cette époque, il y avait ça, 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 ça. Et c'était ça tout le long, ça fait bientôt 50 ans. Et en fait, on a des souvenirs, quelques souvenirs un peu difficiles, mais beaucoup de souvenirs géniaux. Hyper riche. Parce qu'effectivement, il y a eu une période jeu, après il y a eu une période télé, toutes les nouveautés, parce que c'était un bar où tout le monde se retrouvait pour voir la télé. C'était pas du tout la télé d'aujourd'hui, hyper facile sur les téléphones portables ou sur n'importe quoi. Non, là, c'était la salle de télé. D'ailleurs, la bibliothèque, anciennement, c'était la salle de télé. Enfin, il y avait tous les petits vieux qui n'avaient pas la télé chez eux qui venaient la voir, mais aussi des jeunes, parce qu'il y a eu... on a été les premiers à voir Canal+, du coup, tous les gens venaient dire « Ah, 20e siècle, il y a Canal+, voilà. » À chaque étape... on avait un échantillon de la société différente et c'était. Enfin, moi, souvent, j'en parle avec nostalgie parce que même si aujourd'hui le bar a beaucoup changé, avant c'était un bar où il y avait au tout début il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, mais c'est aussi le reflet de la société, de l'évolution de la société. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les usines. Même encore nous, quand on était petits, il y avait encore quelques usines à bar, même s'il en restait pas trop. Mais moi, je me souviens d'apéritifs où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens au bar qui venaient boire à l'apéritif. Et maintenant, la clientèle a complètement évolué. C'est devenu une clientèle un peu alternative. C'est un bar où, comme il y a toujours eu très spontanément ce qu'on peut appeler un peu de culture, qu'elle soit musicale, quelle qu'elle soit, hein, théâtrale, il s'est passé de tout dans ce bar. Dans les salles d'en haut, il y avait aussi des cours de tout, de danse, de claquette, de contemporain, des réunions clandestines, d'associations diverses. Il y a eu aussi une période avec des cafés philo, des cafés théologie, enfin vraiment de tout. Une ouverture assez extraordinaire. Et je trouve que c'est ça qui fait le charme de ce bar. Mais quand je disais que j'en parle avec un peu de nostalgie, c'est que je pense aussi qu'on voit disparaître, on a vu disparaître petit à petit tous les repères de notre enfance, c'est-à-dire tous les vieux, entre guillemets. Et encore, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit au comptoir, « Ah, bah tiens, tu sais, il y a un tel qui est mort, encore une figure qui s'en va. » Et effectivement, le fait d'avoir vécu plus ou moins toute notre vie par le biais du café, eh bien, on se rend compte de tout ce qu'on a eu et tout ce qui disparaît. Et c'est là où je parlais de nostalgie, c'est que il y avait une ambiance très, très, très différente. Même si on a encore la chance d'avoir un bar qui est assez intéressant. J'avoue qu'il s'y passe des choses, on y rencontre plein de gens, c'est quand même hyper agréable. Et on propose des expositions de peinture, il y a une bibliothèque dans la salle de télévision. Bon, il n'y a plus rien dans la salle du fond parce que malheureusement c'est une catastrophe. Mais il y a eu de tout, dans la salle du fond il y a eu des concerts exceptionnels. Quand je dis nostalgie, c'est que je pense qu'un morceau de mon enfance est parti avec tous ces gens. Et c'est peut-être ça qui me rend nostalgique. Voilà. Après, ce n'est pas qu'un bar, c'est notre lieu de vie. C'est peut-être pour ça que j'en parle avec autant d'attachement, quoi. Voilà.
Et ça me permet de rejoindre un peu le titre de l'émission aussi, qui est Cuisiner avec amour. Et c'est vrai que quand tu décrivais cette recette, tu faisais le lien avec ton papa, avec l'amour qu'on peut avoir et ce qu'on peut mettre aussi dans la cuisine, dans une recette qu'on prépare, qui nous est propre, qui nous est chère et qui est aussi une part de notre histoire familiale. C'est un bar que vous tenez à trois sœurs, avec en plus ta maman qui est toujours présente. Elle a quel âge aujourd'hui, ta maman ?
Notre maman, elle a 85 ans.
85 ans, qui est toujours présente souvent ici, en fait. Ouais. Donc, je pense que l'amour est très présent aussi dans ce que tu décris, dans ce lien familial qui est très fort et qui est présent dans ce lieu, quoi.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est notre maison. J'ai envie de dire, même si on a eu plus ou moins chacun un peu notre maison, c'est le bar. Notre maison, c'est le bar. Et ce que je voulais dire aussi à propos de la cuisine, en fait, je pense qu'on a aussi hérité non seulement cette espèce de couleur de la cuisine espagnole, mais aussi de la couleur du partage. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, on a grandi dans le bar. Et en fait, on n'a jamais mangé seul. On a toujours mangé avec les gens. C'est-à-dire que j'ai le souvenir, petit enfant et adolescente et jeune adulte, en fait, de m'asseoir à la table avec fréquemment 3-4 personnes, toujours une assiette en plus pour, oui, mais au cas où, tu vois, si Robert n'a pas mangé, tu sais, il est seul, sa femme l'a quitté, on ne va pas le laisser manger seul. Donc, et puis, au-delà de ça, de cette espèce de famille de tout le monde, eh bien, il y a aussi mon goût personnel pour la cuisine, et par exemple, que je partage aujourd'hui avec plein de copains clients du bar. Et j'ai envie de te dire, la cuisine, c'est tellement important que c'est aussi un moyen de se rapprocher et de partager avec les autres, quoi. Voilà. Moi, c'est hyper important pour moi, la cuisine. J'adore la cuisine. J'adore faire goûter des nouveaux trucs, quoi, tout le temps.
Et qu'est-ce qui est important, selon toi, pour réussir ce qu'on cuisine ?
Savoir envie. En fait, dès que t'as envie de faire un truc à manger, c'est forcément bon, quoi. Pour moi, c'est tout ce que tu vas y mettre dedans, c'est le choix de tes aliments aussi, parce que ça, c'est hyper important. J'ai à cœur de choisir toujours en priorité, tant que je le pourrais, tous les ingrédients. Ben, par exemple, j'ai envie de te dire, j'ai un attachement pour, ce qui n'a rien à voir, hein, mais pour la cuisine réunionnaise, parce que dans mon parcours de vie, j'ai rencontré des Réunionnais, et avec qui j'ai toujours des relations, des gens, quelqu'un qui m'est cher là-bas, et qui, du coup... m'envoie et chaque fois qu'elle vient m'amène des produits de la Réunion authentiques. Du coup, tu vois, par exemple, je peux te parler d'une feuille de caloupilé qui est dans mon congélateur, enfin non, un sachet de feuilles de caloupilé. Caloupilé, c'est un arbre qui pousse donc dans l'océan Indien là-bas et qui est très 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 parfumé. J'adore cette feuille. Et par exemple, elle me l'a ramenée fraîche avec des tiges, sur les tiges, et je la congèle comme ça. Donc quand je la sors, hop, ça y est, et c'est ça aussi la cuisine. C'est à un moment donné, je mange un poulet massalé avec des feuilles de caloupilé. Bah, je pense aussi à Daniel qui me ramène à chaque fois qu'elle vient de la Réunion son petit sac avec feuilles de caloupilé, des feuilles de quatre épices, un peu de ça, du piment oiseau, du piment ceci, de la dagatine. Bon, enfin voilà. Tu vois, pour moi, la cuisine, elle est toujours rattachée et elle est forcément bonne quand tu choisis les bonnes choses, les bons produits et que tu le fais avec amour, tout simplement. Voilà.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire. C'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délices.